En sol majeur, vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Pour nous retrouver en pleine Méditerranée, de quoi a-t-on besoin ? D'un peu de gouache, du Tippex et d'un cutter. Avec Jacques Ferrandez, auteur de bandes dessinées provençales et orientales, la destination ne fait aucun doute. Ferrandez, enfant trouvé de la Méditerranée, a une sorte de chalutier dans la tête qui l'emmène régulièrement sur les terres algériennes, sa terre natale. Qui n'a pas lu ses carnets d'Orient somptueux ? Ces carnets de voyage qui font le pourtour méditerranéen aussi, Syrie, Liban, Turquie. Et moi-même, j'avoue que je sors assez difficilement mon nez de son nouvel opus, Le Premier Homme, adapté du roman inachevé et posthume de Camus. Un récit en forme d'hommage au pied noir d'Algérie et en forme de dialogue proustien autour de l'Algérie de Camus, qui était aussi l'Algérie du père de notre invité. Bonjour Jacques Ferrandez.
Bonjour.
Pourquoi vous dites... Dans un autre livre qui paraît parallèlement, qui s'intitule très joliment « Entre mes deux rives », que vous êtes un enfant trouvé de la Méditerranée.
Oui, je dis que je suis ballotté, en tout cas enfant trouvé. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trouvé grâce à la Méditerranée ou si c'est la Méditerranée qui m'a trouvé, mais il y a toujours cet entre-deux, en fait, quand on est né sur la rive sud et qu'on a habité toute sa vie sur la rive nord, avec des voyages fréquents, en fait, qui permettent de renouer avec ces racines-là. On est toujours dans une forme à la fois d'espace géographique qu'on essaye de réunir, de réunifier, et puis aussi cet espace temporel, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on retrouve aussi dans Le Premier Homme de Camus, c'est cet échange permanent entre le passé, le présent, et puis ces deux rives, hein, qui nous ont construits tous les deux, je pense.
Donc enfant trouvé, mais pas perdu. Hein,
pas perdu, voilà. Pas perdu pour tout le monde.
Vous n'en êtes pas à votre première adaptation, hein, cela dit, des écrits de Camus, vous aviez adapté L'Hôte, qui est un texte un peu moins connu, et puis L'Étranger. Et pour Le Premier Homme, comme d'ailleurs sans doute pour les autres textes, Premier Homme, je rappelle, un manuscrit qu'on a retrouvé dans la sacoche de Camus le jour où il se tue dans un accident de voiture en 1960. Vous avez demandé, Jacques Ferrandez, le feu vert de sa fille, Catherine Camus.
Oui, ben c'est, vous savez, Camus n'est pas dans le domaine public, donc quand on veut travailler sur l'œuvre d'Albert Camus, on est obligé de demander l'autorisation. Donc là, en l'occurrence, il y a d'abord l'éditeur, hein, les éditions Gallimard, et puis ça passe de toute façon par Catherine Camus, que j'ai rencontrée en 2008 et qui m'a donné tout de suite son feu vert, qui m'a fait confiance dès le départ pour L'Hôte. Et une fois qu'elle m'a donné sa confiance, elle ne me l'a jamais retirée jusqu'à aujourd'hui.
Alors l'intrigue, rapidement, en une phrase du Premier Homme, on a un certain Jacques Cormery qui est l'alter ego de Camus, et c'est un homme de 40 ans qui retourne dans son Algérie natale d'avant-guerre sur les traces de son enfance, et il va créer un parallèle entre Cormery adulte et Cormery enfant.
F.
كاين طريق من اللي جبلت هذه تنغيت ولا لا
كاين طريق تبدا مول الجبل
F comme Far West
Algérie automne 1913 ciel lourd bleu-gris, hein, et une carriole traînée par deux chevaux roule sur un petit chemin au milieu du djebel avec comme chargement un couple dont la femme va accoucher. Une première remarque qui va bien passer à la radio, je le sens, Jacques Ferrandez. L'imaginaire du Far West vous a pas mal inspiré pour dessiner les paysages algériens.
Oui, ben vous savez, moi quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet avec mes premiers carnets d'Orient, pour moi c'était cette histoire-là, c'est-à-dire c'était l'histoire d'une espèce de mythologie qui peut se rapporter à celle du Far West, en tout cas dans les images que ça suscite. Dans Les Fils du Sud, je me souviens, je m'étais inspiré des récits de mon grand-père maternel qui me racontait le sud oranais, la construction du chemin de fer, les attaques, enfin le désert, enfin tout ça faisait énormément penser au Far West, et c'est dans cet imaginaire-là que j'ai essayé de développer aussi mon récit pour aussi pouvoir prendre du recul avec cette histoire-là. C'est-à-dire que, vous savez, dans la mythologie aussi de la conquête de l'Algérie, il y a l'idée que ce sont des pionniers, que ce sont des gens souvent déshérités, on le voit très bien dans le premier homme, qui viennent se reconstruire en Algérie sur cette terre de promesses, en fait. Et on voit bien que, alors, la différence de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu un génocide de la population qui est aujourd'hui cantonnée dans des réserves, enfin quasiment aujourd'hui qui a disparu. C'était pas du tout le cas en Algérie, quoi qu'en disent certains responsables politiques algériens aujourd'hui. Il y a eu, évidemment, il y a eu une guerre, il y a eu de la violence, mais il n'y a pas eu le souci d'éliminer la population, bien entendu.
Alors, la première scène que je viens de décrire, c'est votre première planche du premier homme, Jacques Ferrandez, et cette naissance de Jacques, donc l'alter ego de Camus que vous nous donnez à partager et à voir. En fait, vous l'avez voulu biblique, cette naissance.
C'est-à-dire que, vous savez, dans le premier homme, le personnage qui est, donc, comme on l'a dit, l'alter ego de Camus s'appelle Jacques Cormeries, dont les initiales sont JC. Alors, vous voyez, c'est avant JC, après JC, hein, la naissance de Jacques Cormeries, elle a aussi cette signification-là dans le roman. Après, effectivement, c'est un peu comme la crèche, c'est-à-dire c'est ce couple qui arrive, qui est un peu, ils n'ont pas chassé, mais vous voyez, il est quand même poussé par une forme d'exil, on peut dire. C'est-à-dire que là, le couple des parents de Jacques Cormeries, donc Albert Camus, se retrouve effectivement sur la route parce que le père allait prendre des fonctions dans un domaine agricole, un peu dans la campagne un peu éloignée de l'Algérie de l'Est à cette époque-là. Et puis il y a cette vision effectivement très simple comme ça d'une naissance dans le dénuement. Le dénuement, ça sera aussi là, tout ce qui accompagnera le jeune Albert Camus pendant toute son enfance.
Alors on découvre avec gourmandise parce que l'image est là, le monde de Jacques de Camus, c'est-à-dire on est dans cette Algérie des années 20, ça se passe entre palmiers et tramways, et soit quand on est gamin, quand on a l'âge de Camus à ce moment-là, on course galoufa, soit on mange un cornet de frites sur la plage. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est galoufa ?
Galoufa, c'était l'employé municipal qui était chargé de ramasser les chiens errants, c'est la fourrière municipale.
Ça vient de quel mot ?
Alors en fait, ça viendrait logiquement du patronyme du premier employé municipal qui était chargé de cette tâche-là, qui devait s'appeler Galoufa. Mais après ça, il y a plusieurs étymologies, comme souvent, vous savez, dans ces expressions populaires, on ne sait jamais, c'est pas tellement tracé, tout ça. Mais ça peut être aussi Raloufa, c'est-à-dire le diminutif cochon. De cochon, vous voyez, enfin bon, on ne sait pas trop.
Alors ce qu'on voit bien dans votre bande dessinée, Jacques Ferrandez, c'est ce monde de femmes qui entoure Camus.
Et oui, parce que Camus, comme Jacques Cormeries, perd son père à la guerre alors qu'il est bébé, c'est-à-dire que le père d'Albert Camus est mort à la bataille de la Marne en août 1914, il était touché en août 14, et il est décédé quelques temps plus tard, en septembre, dans l'hôpital de Saint-Brieuc, où il a été enterré. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'une séquence aussi très émouvante, où l'homme, Jacques Cormeries, adulte, qui a une quarantaine d'années, va se recueillir sur la tombe de son père, et en fait, il se rend compte, il le sait, mais là, il le voit écrit sur la tombe.
Dans le carré du souvenir.
Le carré du souvenir français, qui est le carré militaire du cimetière de Saint-Brieuc, où il a à ses pieds, finalement, la tombe d'un père cadet, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort à l'âge de 29 ans, et qui est donc plus jeune que lui au moment où il se rend compte de cet état de fait. Et il y a cette idée que c'est une espèce de vertige temporel aussi, où avec l'idée que ce père n'a pas pu lui transmettre grand chose.
Sauf une phrase.
Voilà, un homme, ça s'empêche.
Ça veut dire quoi ?
Alors, c'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose de très instinctif face à une forme de barbarie. On doit pouvoir s'empêcher de se livrer à ses plus bas instincts, si vous voulez.
À la torture.
Alors, en l'occurrence, c'est la torture, mais c'est aussi une manière de se tenir droit et debout dans la vie. Et ça, je pense que Camus en a tiré les enseignements pendant toute son existence.
Donc, un monde sans hommes, un monde avec des femmes, deux femmes illettrés, vous les croquez bien, et la maman est là. Et cette terrible grand-mère qui donne lieu à un moment donné à une belle scène qui se passe au cinéma Le Rex, hein, donc dans cet Alger des années 30. Il va voir avec sa grand-mère un film de Capédépée, Le Signe de Zorro. Et c'est une scène à la fois, je trouve, très triste et très drôle en même temps.
Oui, parce que ça, Camus le raconte très bien. Le jeune enfant, en fait, accompagne sa grand-mère. Lui, évidemment, est allé à l'école, il sait lire. Et donc, sa grand-mère fait semblant d'avoir oublié ses lunettes, qu'elle ne porte d'ailleurs pas le reste du temps. Et mais elle dit tout fort, j'ai oublié mes lunettes, tu me liras les sous-titres. Enfin, c'est pas les sous-titres, c'est les cartons, vous savez, qui passaient entre les séquences. On est dans le cinéma muet à cette époque-là, bien sûr. Et le jeune Jacques va être obligé de lire les cartons à sa grand-mère, qui est un peu, un peu sourde. Enfin, donc, obligé de répéter, puis de pendant que le film se déroule. Donc, ça y est, toujours un de retard.
Pendant les scènes d'amour.
Alors les scènes d'amour, évidemment. Alors il y a tout le spectacle aussi qui est dans la salle. Et ça, c'est drôle parce que Camus le raconte et ça fait écho à ce que me racontait mon père des séances de cinéma auxquelles il a assisté dans le même quartier, dans le même cinéma et à la même époque. Et là, évidemment, le spectacle était dans la salle avec toutes les réactions, les expressions. J'en ai rajouté un petit peu d'ailleurs dans la scène et qui venait d'ailleurs de la mémoire familiale. Ce que disait mon père, les jurons, les insultes proférées par les gamins, tout ce qui se passait sur l'écran était évidemment commenté en direct par les spectateurs.
M comme Maghreb.
On y est presque, hein. Alors justement, sur quel bateau vous embarquez votre Jacques Cornery, Jacques Fernandez, le héros, pour faire Marseille-Alger ?
Oui, alors c'est très curieux parce que vous savez, quand on dessine, on est obligé de donner des éléments visuels qui soient exacts en fait.
Vérifiables.
Vérifiables, en tout cas c'est le gros privilège qu'on a quand on fait de la bande dessinée par rapport au cinéma, c'est-à-dire que là... Quand je décris les rues de Bellecour, c'est les rues telles qu'elles étaient
quartier
dans
d'Alger.
Les années, voilà, le quartier d'Alger où a vécu Camus et dont je suis moi-même issu. Hein, mon père est né à Bellecour, je suis né à Bellecour. Donc, quand il s'agit de dessiner les décors, moi, je peux me fier à des sources documentaires très précises sur ce qu'était cette rue dans les années 20, ce qu'elle a été dans les années 50, et de dessiner au plus près de cette réalité. De même pour le bateau, j'ai essayé de trouver le bateau qui faisait la liaison entre Marseille et Alger dans les années 50. Évidemment, aujourd'hui, c'est très simple avec Internet. Donc, je cherche les bateaux et là, je tombe sur un bateau qui s'appelle El Mansour. Et il se trouve que ce bateau, ben c'est le bateau qui était sur un tableau qui appartenait à ma grand-mère et que j'ai toujours vu dans mon enfance.
C'est du Borges. Et il ressemble à quoi ce bateau alors ?
Ben c'est un paquebot comme il y en avait beaucoup à l'époque. Quand j'ai vu une photo de trois quarts arrière de ce bateau, ben c'était l'image que j'avais imprimée dans ma rétine et dans mon cerveau depuis que j'étais gamin en fin de compte.
Et alors ce bateau va servir à ouvrir une belle séquence souvenir d'enfance. Ce voyage du premier homme nous entraîne évidemment sur la question épineuse de la politique et la question de l'indépendance algérienne et le positionnement de Camus qui n'a pas toujours été compris. Et l'écrivain algérien Kateb Yassine, pour qu'on comprenne bien justement ce positionnement difficile de Camus, fait un parallèle entre Albert Camus et William Faulkner.
Nous avons deux écrivains qui naissent dans des conditions à peu près semblables. Et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon dans le sud des États-Unis. Il était dans la même situation fausse, c'est-à-dire il vivait parmi les Algériens, Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste, il avait des relents racistes. Mais dans ses livres, il se débattait avec ses nègres, avec ses noirs. Il essayait de les comprendre, et il les comprenait souvent. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était, au fond, une position morale. Seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi ? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. C'est pourquoi, bon, il faut quand même que les Français comprennent une fois pour toutes que la littérature algérienne, c'est pas Camus, et l'Algérie n'est pas française. Et la littérature est un bon moyen de comprendre.
Et voilà, Camus qui ne se débattait pas assez avec ses Arabes, c'est ce qu'aurait pu dire Kateb Yassine. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Jacques?
Non, je ne suis pas d'accord, parce que, si vous voulez, c'est aussi la lecture qu'on peut avoir au moment de l'indépendance, et juste après l'indépendance. C'est évidemment, c'est un procès qui est fait parce que Camus n'a pas choisi, au moment de la guerre d'Algérie, de se ranger du côté du FLN, comme Sartre et les Sartriens, c'est-à-dire dans une démarche plus théorique et anticolonialiste. Camus, il était issu de cette terre, alors même si des gens issus de cette terre, comme Jean Sénac, comme Jean Pellegris ou même Jules Roy, avaient pris position pour l'indépendance, c'était un déchirement chez Camus, peut-être parce qu'il était plus politique que les trois autres précités, et qui voyait aussi que l'Algérie, peut-être aux mains exclusives du FLN, allait dériver aussi vers un État dictatorial qui allait peut-être exclure aussi d'une certaine façon ceux qui n'étaient pas Algériens, Arabes, musulmans. Donc peut-être il avait cette préscience-là, on ne sait pas évidemment après ça ce qu'aurait dit, ce qu'aurait fait Camus s'il avait vécu jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Mais en tout cas, dire que dans l'œuvre de Camus, l'Algérien, l'indigène, l'Arabe n'existe pas, c'est quand même méconnaître les articles que Camus a pu faire dans le Républicain sur la misère de la Kabylie.
Du Camus romancier. Hein.
Oui, mais même dans le roman, alors l'étranger, alors évidemment, il y a le personnage de l'Arabe qui est un personnage assez générique, mais est-ce que vous pensez que si Camus avait été dans l'ordre des choses de l'époque coloniale, est-ce que vous pensez que Meursault aurait été condamné à mort pour avoir tué un Arabe sur la plage? Évidemment non.
Touché.
Évidemment non.
En tout cas, son alter ego à Camus, Jacques Cormery, entend bien les récits autour de l'injustice de certains colons, mais il entend aussi les récits autour de la cruauté des Fellahs, donc une situation qui dit doublement la question de l'injustice. Mais lui, Cormery, comme Camus, se sent de cette terre, et je le cite, de cette tribu où chacun était le premier homme. Alors comment il faut l'entendre, ce premier homme ?
C'est évidemment assez énigmatique ce titre, parce que je pense que Camus le définit par rapport à ce personnage de Jacques Cormery qui est le premier à pouvoir raconter l'histoire des siens, à avoir les mots que ses anciens n'ont pas, c'est-à-dire bon, il a un père qui n'est plus là, qui est mort à la guerre, on l'a dit, il a une mère qui est infirme, qui a très très peu de mots à son vocabulaire, qui est d'origine espagnole, donc il maîtrise peut-être pas déjà le langage, et qui en plus de ça est affligé d'une infirmité qui l'a rendue sourde et quasiment muette. Donc peut-être que ce premier homme, c'est celui qui va peut-être pour la première fois être capable de parler pour les autres et d'avoir ce rôle de transmission de cette mémoire.
Et cette chanson des Oranges Amères d'Enrico Macias, est-ce que vous pensez qu'elle va bien à l'univers et à l'Algérie de Camus ?
Oui, vous savez, c'est curieux, quand vous m'avez demandé de choisir quelques titres, j'ai pensé à cette chanson. Je ne suis pas un grand fan d'Enrico Macias, mais enfin, on sait aussi quel est l'attachement d'Enrico Macias à l'Algérie, ses racines dans ce pays. Je trouvais qu'il chantait très bien, qu'il y avait... Bon, là, j'aime beaucoup la musique aussi d'Art Mengo. De cette manière nostalgique, mais sans, vous voyez, sans effusion non plus. Enfin, c'est assez sobre. Et enfin, voilà, je trouve que cette chanson colle très très bien au thème de l'émission.
Il est 15h, Paris s'endort. Et par les rues des champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blanc vers les collines et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme et sous le voile d'une moustiquaire, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu les noyaux d'abricot, le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampadaires. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son temps. L'école, l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges amères, 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 et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères.
Quelques oranges amères d'Enrico Macias dans Le Petit Panier dans Sol majeur. Enrico Macias qui revient dans l'Algérie de Jacques Ferrandez, auteur de BD, camusien je dirais. Car pour Jacques Ferrandez, Albert Camus est presque la famille. Voir son adaptation du dernier roman inachevé de Camus, intitulé Le Premier Homme. Donc pour Ferrandez, le menu est clair, c'est soubresade, anisette et soleil sur la lame du couteau, imprégné de cette Algérie natale qui lui fait ressortir la gouache et les pinceaux. Notre auteur de BD est plus que jamais l'ambassadeur apaisé d'une certaine culture pied-noir d'Alger. Mais au fait, Jacques, qu'est-ce que c'est que la soubresade ?
La soubresade, c'est une charcuterie qui est une espèce de... C'est difficile de dire que c'est une saucisse, ça se présente comme une saucisse, mais c'est très rouge, c'est assez pimenté, et en fait ça a une texture plutôt de rillette, vous voyez, bon il y a beaucoup de gras, parce que quand vous le faites réduire sur la plancha, ça dégage beaucoup de gras, mais bon c'est absolument délicieux, on peut le faire en omelette, on peut mettre ça dans des pâtes, enfin on peut manger ça cru aussi au pique-nique, et puis juste comme ça, grillé à la flamme, c'est absolument délicieux sur un morceau de pain.
Typique de la culture pied-noir. Hein,
oui, oui, je pense que tous les Algérois, et pas seulement, enfin les gens d'Algérie, savent ce que c'est que la soubresade.
Soubresade et jazz sur notre radeau en sol majeur, avec maintenant un morceau tombé du ciel étoilé, je dirais, c'est celui de Joni Mitchell, Goodbye Pork Pie Hat. C'est en hommage à ce cher Mingus.
Oui, vous savez peut-être qu'à mes heures, je suis contrebassiste aussi, et ça m'arrive
de jouer. Oui.
Et puis, bon, évidemment, Mingus est une figure centrale de la contrebasse dans le jazz. Et là, il y a un très bel hommage de Joni Mitchell, la chanteuse qui a fait un disque consacré à Mingus, avec des musiciens absolument exceptionnels. C'est Jaco Pastorius, enfin, c'est un peu les musiciens du groupe Weather Report, donc Gawain Shorter au saxophone. Mais voilà, c'était une manière d'hommage à travers plutôt la chanson et la pop pour un musicien de jazz.
When Charlie speaks of Lester, you know someone great has come. The sweetest swinging music man had a porky pig hat on. A bright star in a dark age. When the bandstands had a thousand ways of refusing a black man admission, black musician. In those days they put him in an underdog position. Sellers and chitlins. When Lester took him a wife, arm in arm went black and white, and some saw red, and drove them from their hotel bed. Love is never easy, it's short of the hope we have for happiness. Tonight, these crowds dancing in the streets. In the sticky middle of the night, summer serenade of taxi horns and fun arcades, where right or wrong, under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book and a circus. Dangerous clowns balancing dreadful and wonderful perceptions they have been handed day by day, generations on down.
À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source, l'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être, à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé.
Un petit peu de lecture en sol majeur de l'étranger, façon jazz, sur RFI, dans la voix du grand Albert Camus. Vous, Jacques Ferrandez, vous souhaitiez ce passage-là en particulier, pour quelle raison ?
Parce que quand j'ai adapté l'étranger, cette scène est évidemment cruciale, elle est très importante, elle est évidemment décisive dans le roman.
La scène du meurtre.
La scène du meurtre de l'arabe sur la plage, donc. Et il me semblait qu'en relisant, en relisant nombreuses fois ce passage, qui fait peut-être une page et demie, deux pages dans le roman, il y a quelque chose de très sensuel et peut-être d'érotique dans cette scène. Je ne sais pas si vous avez entendu les mots qui sont employés.
Dites-moi.
Une épée qui a jailli, qui a giclé, un liquide chaud, tiède et épais. Enfin, vous voyez, il y a des choses, bon, je ne veux pas en rajouter, mais il y a quelque chose de l'ordre presque du désir dans cette scène. Et il y a l'idée peut-être que quand Meursault va sortir son revolver, il parle aussi de la crosse comme un ventre poli hein, de ce revolver, vous voyez.
Donc d'amour-haine.
Voilà, et quelque chose peut-être qui est de l'ordre aussi du double. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça aussi, c'est un peu l'idée du roman.
C'est votre lecture, ça vous dites que Meursault n'est pas l'ennemi.
Oui, je pense que quand il tue l'arabe...
L'arabe n'est pas l'ennemi, mais le double de Meursault.
Je pense que quand Meursault tue l'arabe, il se tue lui-même. D'ailleurs, c'est ça qui va lui coûter, au moment du procès, la condamnation à mort. Il faut savoir qu'au moment où Camus écrit L'étranger, il écrit aussi le mythe de Sisyphe, dans lequel il débute le texte en disant il n'y a qu'une seule question qui vaille, celle du suicide. Il faut savoir que Camus, il a appris quelques années plus tôt qu'il était mortel, au sens où il a découvert sa maladie qui est la tuberculose, à l'âge de 17 ans, qui est une maladie qui, à l'époque, on est avant la Deuxième Guerre mondiale, ne se soignait pas. Enfin, il n'y avait pas la pénicilline. Et donc, il y a cette question de... c'est tout le thème de l'absurde. Mais en tout cas, pour revenir à cette scène, il y a quelque chose qu'on peut trouver, d'ailleurs. Parce que vous savez que Camus, avant d'écrire L'étranger, avait écrit un roman qui restait inachevé. inachevé qui s'appelait La mort heureuse, qu'il a laissé tomber finalement pour passer à l'étranger, où le personnage s'appelait Meursault et non pas Meursault. Et je voulais vous lire juste un tout petit passage de La mort heureuse qui vraiment résume ce que j'essaye de vous dire. Il dit « Il se prenait d'un amour violent et fraternel pour cet homme dont il s'était senti si loin, et il comprenait qu'à le tuer, il avait consommé avec lui des noces qui les liaient à tout jamais. »
Camus et vous, donc Jacques Ferrandez, c'est une histoire presque familière, on l'aura compris, car c'est tout le sel de l'histoire d'ailleurs. L'Algérie de Camus, c'est aussi l'Algérie de votre père. Est-ce que votre père, c'était un peu mon père, ce héros, pour vous ?
Ah oui, c'est un peu lapidaire de le dire comme ça, mais mon père, enfin, il a fait un choix à un moment de sa vie qui était de quitter son pays pour mettre, je pense, ses enfants à l'abri, parce qu'il était jeune médecin du quartier Bellecour, médecin généraliste, et c'est lui le premier qui m'avait raconté l'histoire des nez coupés. Ben, il m'avait dit, voilà, à l'époque, le FLN avait lancé des mots d'ordre qui étaient interdiction de fumer, interdiction de boire l'anisette, et les contrevenants étaient impitoyablement châtiés, à coups de rasoir, le nez coupé, les lèvres coupées, parfois les oreilles aussi.
Et les organes génitaux aussi.
Alors ça, mais ça c'était dans le cadre d'une exécution, mais si vous voulez, simplement pour intimider les populations, on laissait la vie sauve, mais on coupait le nez. Et dans, il m'avait expliqué que dans le dialecte, en tout cas en arabe algérien, le nez et l'honneur se disent de la même manière, nif.
Oui, c'est vrai.
Et ce qui veut dire que quand quelqu'un a manqué à l'honneur, eh bien, ça doit se voir comme, si je peux dire, comme le nez au milieu de la figure. Et donc il avait vu, en plus ça, il y avait eu un attentat au magasin familial, qui était le magasin de chaussures, dont je parle aussi dans le premier homme, qui est le magasin qui se trouvait en face du petit immeuble où se trouvait le logement où a vécu Camus avec sa mère et sa grand-mère. C'est exactement en face, rue de Lyon. Et ce petit magasin de chaussures a été, en août 55, je crois, victime d'un attentat où un type est rentré avec un couteau, il a tué l'employé, il a blessé très grièvement le frère de mon père, qui était donc gérant du magasin. Et tout ça fait que mon père a probablement pensé que cette histoire allait mal, entre guillemets, mal se terminer pour les Français. Et il a décidé de quitter l'Algérie en 56.
En 56, ce qui est très tôt.
Ce qui est tôt.
Il est un peu visionnaire. Donc, votre père, après la guerre, si on raconte un tout petit peu son histoire, il devient médecin généraliste dans ce quartier populaire de Bellecour, le quartier de Camus. Et vous avez, je crois, en votre possession, Jacques Ferrandez, ses carnets de rendez-vous avec tous les noms de ses patients.
Et là, je voyais tous les noms. Alors, c'était tous les noms du quartier, des noms juifs, des noms chrétiens, enfin des noms européens, espagnols, italiens, maltais, et puis des noms arabes aussi, parce que mon père était le médecin de la famille de Hamoud Boualem. Je ne sais pas si vous savez qui est Hamoud Boualem, mais c'est le fabricant du Selecto et de la limonade algérienne, enfin l'espèce
la
de
boisson,
voilà, la
mythique.
Boisson mythique, le coca algérien, oui. On peut dire. Et donc la fabrique de limonade et de soda était à Bellecour, et la maison familiale de Hamoud Boualem, qui est une dynastie, était juste à côté. Mon père était le médecin, donc il me racontait ça aussi, de quelle façon il soignait toute la famille de Hamoud Boualem. D'ailleurs, je crois que dans la famille d'Hamoud Boualem, il y a aussi des martyrs, comme on dit en Algérie, c'est-à-dire il y a une fille d'Hamoud Boualem qui s'est retrouvée dans les rangs du FLN au moment de la bataille d'Alger, je suppose. Enfin, vous voyez, donc, il était un peu au cœur de tout ça. Il avait compris qu'il se passait des choses qui allaient sans doute être irrémédiables par rapport à la présence des Français en Algérie.
Mais est-ce que le nom de Camus apparaît sur ses carnets de rendez-vous ?
Alors oui, pour revenir à ces rendez-vous, j'ai vu sur une page le nom de Camus. Alors évidemment, je pense pas, si mon père avait soigné Albert Camus, je pense qu'il s'en serait souvenu, parce qu'Albert Camus revenait évidemment périodiquement à Alger, mais je pense qu'il s'agit probablement peut-être du frère aîné d'Albert Camus. C'est peut-être la mère d'Albert Camus, je ne sais pas. Il y a juste le nom, il n'y a pas de prénom, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme.
Et puis vous avez aussi en votre possession l'acte de naturalisation française du grand-père de votre père.
Oui, parce que tous ces gens-là venaient d'Espagne et ils avaient fait la traversée. Et le père du grand-père paternel était mousse sur des bateaux, vous voyez, qui faisait la liaison entre l'Espagne et et l'Algérie. Et puis il s'était fixé, il avait ouvert un bistrot au quartier de la Marine à Alger. Et voilà, puis tous ces gens venant d'Espagne, comme dans toutes les situations d'émigration, se retrouvaient parce qu'ils venaient du même village, ils venaient de la même région d'Espagne. Et donc le père de mon grand-père a rencontré le père de grand-mère, enfin je sais plus. Enfin,
vous vous y perdez vous-même.
Je m'y perds moi-même. Enfin, c'est pour dire qu'il y avait comme ça un petit foyer d'Espagnols à Alger, c'était pas tous à Oran, et c'est de là donc que je viens.
Il vous reste quoi alors de tout ça, de cette culture pied-noir d'Alger?
Vous savez, ce qui me reste, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans mes albums. Hein. C'est cette mémoire recomposée d'une certaine façon, c'est-à-dire aussi la volonté de comprendre ce qui s'est passé. Moi, je suis le produit de cette histoire-là. Et à un moment donné, quand j'étais déjà auteur de bande dessinée, puis c'est un sujet qui m'est apparu comme quelque chose d'abord très peu traité, et spécialement dans la bande dessinée, c'était les années 80. Et j'ai commencé, si vous voulez, à me documenter, à trouver qu'il y avait là une mine de scénarios inépuisables. Donc c'est aussi mon histoire. Et puis c'est drôle parce que finalement la démarche que j'ai faite dans les années 80 pour essayer de raconter cette histoire, c'est aussi la démarche que Camus fait avec Le Premier Homme, avec Jacques Cormeric, qui va tenter de rassembler les morceaux de cette histoire très fractionnée, qui est très peu racontée, peu dite dans la famille.
S'il vous plaît, dessine-moi ton enfance.
Alors, c'est pas mon enfance au sens où là-dessus, je suis resté assez pudique, si vous voulez, parce que bon, mon enfance en tant que telle n'avait pas forcément un grand intérêt. Je trouve que c'était plus intéressant de raconter les enfances de ceux qui m'ont précédé. C'est vrai que la fréquentation d'un grand-père un peu lointain jusqu'aux années 80, qui était le père de ma maman, qui habitait à Paris. Et là, ces histoires d'enfance vraiment m'ont épaté, quoi. C'est cet enfant vers 1900 dont le père était chef de gare sur le bout de la ligne qui se construisait entre Oran et Colombéchard, c'est-à-dire le sud algérien, le sud oranais, avec ce désert, avec les oasis qui étaient de l'autre côté marocain, Figuig, qui était l'oasis côté marocain. Et c'était le moment où il y avait Lyoté au Maroc et où il y avait donc cette colonisation française qui devenait des départements français en Algérie. Et puis voilà le père de ce grand-père qui croyait beaucoup au progrès, au chemin de fer, à la manière de relier les hommes entre eux, etc. Donc il y avait toute une espèce de d'espérance très Troisième République, vous voyez, à ce moment-là. Et mon grand-père me raconte ça avec l'histoire de ce petit chacal qui avait été recueilli comme un petit chiot et puis qui devient à ce moment-là un peu encombrant au moment où il commence à faire des ravages dans les poulaillers voisins, puis que mon grand-père retrouve quelques années après dans une exposition à Marseille, exposition zoologique où il y a des animaux qui viennent du désert, et c'est ce petit chacal qui vient lui lécher les mains à travers les grilles de la cage. Enfin, plein de choses comme ça qu'il m'avait raconté et qui ont été pour moi des petits jalons dans cette histoire que, à mon tour, je me suis mis à raconter en bande dessinée.
Vous êtes un peu le Tintin reporter de votre propre famille, hein, vous enquêtez et vous dessinez. Alors Alger, c'est votre ville, c'est vrai, Jacques Ferrandez, mais en même temps vous n'y avez jamais vécu. Vous l'avez dessiné, notamment pour vos carnets d'Orient, une série qui va de la conquête aux années 30. Ce que je sens, c'est que le dessin et le pèlerinage sont étroitement mêlés dans votre démarche. Vous retournez sur les lieux du crime et le crime devient romanesque.
Oui, et puis pas que ces lieux-là, parce que c'est aussi une recherche aussi que j'ai pu faire sur tout le pourtour méditerranéen avec carnet en main, aquarelle, parce que vous savez, le dessin, c'est un passeport formidable quand on parle pas la langue. C'est ce qui m'est apparu assez vite quand je me suis baladé dans les pays du Proche-Orient, comme le Liban, la Syrie. Alors, au Liban, il y a beaucoup de francophones, mais en Syrie, je me suis retrouvé dans un pays où je ne parlais pas la langue et où le dessin servait de
passeport,
voilà, pour rentrer chez les gens.
Racontez-nous votre Syrie. Vous avez eu la gentillesse de nous ramener un de vos carnets d'Orient consacrés à la Syrie, dans un pays où l'image n'existe pas.
Oui, alors c'est ça aussi que je raconte dans Entre mes deux rives, c'est qu'à un moment donné, cette expérience du dessin dans un pays où on ne dessine pas avait quelque chose d'un peu de magique pour les gens que je rencontrais, parce qu'ils voyaient surgir de la feuille blanche le portrait de la personne qui était à côté d'eux. Et j'ai eu une phrase comme ça qui m'a vraiment beaucoup accompagné depuis, qui est ce dessin, c'est moi, et la part qui n'est pas moi, c'est toi. C'est-à-dire quelqu'un qui se reconnaît dans son portrait, mais qui reconnaît aussi l'auteur du portrait, c'est-à-dire l'artiste, et la part de lui-même qui met dans son travail, dans son œuvre.
Une belle définition du portrait, quoi.
Oui, puis c'est une définition absolument géniale qui tient en deux mots et qui, en plus, ne s'encombre pas de toute une connaissance des arts, vous voyez, d'une éducation culturelle, artistique. Donc j'ai trouvé ça absolument lumineux. Et cette phrase m'a été prononcée par un Syrien à cette époque-là. Et là, bon, et voilà, il y a des pages sur Alep. Alors Alep, je sais qu'aujourd'hui, la ville est quasiment détruite. En fait, toute cette vieille ville qui était le témoignage de cette histoire immémoriale. Alep, c'est une des premières villes habitées au monde. Et donc, on pouvait voir toutes les couches du millefeuille quand on se promenait dans Alep.
Exemple d'une bulle.
Voilà, là, il y a la savonnerie à Alep. Vous savez que le savon d'Alep est réputé depuis très longtemps. C'est peut-être le savon d'Alep, d'ailleurs, qui a engendré le savon de Marseille, peut-être à travers les croisades. Donc, je dis que la fabrique se trouve dans un très vieux bâtiment aux salles voûtées, probablement un ancien caravansérail. Et bon, voilà, je continue. On avance dans une première galerie où sont entreposés les sacs de savon destinés à la livraison et aux expéditions.
Non, mais Jacques Ferrandez, ne faites pas la lecture. Non, donnez-nous à voir une image, une vraie image
voilà,
de votre Alep.
On voit le processus de fabrication du savon avec dans ces cuves qui sont creusées à même le sol. Enfin, c'est une manière de fabriquer le savon qui est absolument ancestral, hein, qui est probablement celle qu'ont découvert les Francs quand ils sont arrivés au moment des croisades dans ce pays. Vous voyez, je suis très touché en fait de ce qu'est devenu la Syrie aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir aucune prise sur ce qui s'y passe et on n'a peut-être que les souvenirs en fait à égrener par rapport à ce pays.
En tout cas, vous, Jacques Ferrandez, l'enfant trouvé de la Méditerranée, vous l'avez vraiment traversé, lu, dessinée, même lorsqu'elle s'est transformée, cette Méditerranée, en théâtre de guerre, puisque vous êtes allé donc en Algérie, en Syrie, au Liban, en Turquie, vous êtes même allé jusqu'en Irak. Vous avez ce besoin de la retrouver en dessin, cette Méditerranée ?
Oui, et puis ce qui est peut-être curieux, c'est aussi d'arpenter cette Méditerranée à travers ce que j'appelle les traces de la guerre. Alors, c'est des guerres passé, puis là pour la Syrie c'était des guerres non encore advenues, mais il y a cette dimension dans la Méditerranée, surtout le pourtour de cette, à la fois du berceau des civilisations, puis aussi du lieu de la tragédie. C'est, pour moi c'est évident, enfin, quand on se promène partout, il y a tous les éléments pour qu'on soit relié, hein, cette mer que je conçois non pas comme un élément pour séparer, mais plutôt pour réunir, et puis tout ce qu'il y a de commun, hein, sur les paysages, sur la culture de l'olivier, sur la cuisine, enfin tout ce qui peut nous rapprocher. Et en même temps, on voit bien que cette Méditerranée est le siège permanent des conflits, des guerres, de cette bêtise humaine, enfin aussi cette face atroce de l'humanité, comme disait Germaine Tillon. C'est un constat qu'on peut faire à tout moment, parce que les strates de l'histoire qui sont visibles à l'œil nu témoignent de ça aussi. C'est les conquêtes, c'est les guerres, c'est les frictions, mais c'est aussi les échanges, c'est aussi le bonheur, enfin, de ce qui a été ce grand creuset, hein, qu'est la Méditerranée.
En un mot très rapide, pourquoi est-ce que votre oreille est émerveillée lorsqu'elle entend l'ensemble Al-Kindi, le salon de musique d'Alep ?
C'est aussi une forme de nostalgie. Pour moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer Julien Weiss, qui était l'animateur de ce groupe Al-Kindi, dans son salon de musique d'Alep. Et voilà, c'est Alep, c'est encore une fois cette ville qui n'existe plus, en tout cas que j'ai connue au moment où elle était magnifique. Et cette musique en témoigne.
Quel est le papier le plus précieux dont vous êtes en possession?
Mon passeport, peut-être.
Ah bon?
Oui, parce qu'on a, vous savez, une très grande chance quand on est français, c'est qu'on peut voyager partout dans le monde. On n'a pas de limitation. Parfois, il faut un visa dans certains pays, mais enfin, vous voyez, pour l'Algérie, il faut un visa. Oui, c'est très précieux d'avoir un passeport et de
donc
pouvoir.
On revient au réel là tout de suite, hein, tout d'un coup.
Oui, mais je n'attendais pas la question, donc vous voyez, je réponds à brûle pour point comme ça.
Oui, c'est drôle qu'un dessinateur réponde ça. En tout cas, dans vos tiroirs, il y a des choses sans doute très précieuses, des trésors et peut-être même une bande-son intime qui doit un peu chantonner comme ça.
Dans sa lettre, elle te disait qu'elle était enceinte. Tu étais partie depuis à peu près 3 semaines. Elle te disait que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, elle t'attendrait.
Tu es sûre?
Elle ne dormait plus, la pauvre. Elle a essayé de faire passer le petit avec les tisanes du diable. Dans la colline, elle sautait du haut des rochers. Mais il était bien accroché. Alors elle t'a détesté. Elle est allée danser au bagne où elle a trouvé ce forgeron de Crespin. Elle a quitté le village. Personne n'a jamais su quand cet enfant est né.
Il est né vivant?
Oui, vivant, mais bossu.
Et oui, pour en sol majeur, la Provence dans toute sa splendeur et ses secrets de famille avec cet extrait de Manon des Sources, Jacques Ferrandez. C'est un film qui vous a marqué?
Oui, d'abord le livre, puisque il se trouve que je l'ai adapté aussi en bande dessinée il y a 20 ans maintenant. Et cette scène, à chaque fois que je l'entends, en la lisant déjà, et puis en l'entendant là, dans le film de Claude Berry, à chaque fois, je trouve que c'est d'un tragique absolu, quoi. C'est à la fois l'histoire de famille, vous voyez, puis la tragédie grecque, quoi. On y revient, en fait. Cette Méditerranée-là qui est pas... Clairement, on s'imagine que Pagnol, c'est quelqu'un de très léger, comme ça, c'est un peu la galéjade marseillaise. Mais Jean de Florette, Manon des Sources, pour moi, c'est une tragédie grecque absolue, quoi. Et cette scène, enfin, à chaque fois que je l'entends, je trouve qu'elle est magnifique dans le film. Et vous voyez, j'ai...
Oui, je vois bien. Donc vous revenez toujours à la source.
Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est toujours cet entre-deux, quoi, les deux rives, puis cette Méditerranée qui m'a fait naître vraiment et puis qui m'a fait grandir.
Mm-hmm. On va finir peut-être sur un Camus qui est votre grande référence, qui interrogeait la possibilité d'une morale sans Dieu. Est-ce que ça, c'est une source de réflexion qui peut vous parler à vous, Jacques Ferrandez?
Oui, c'est une manière de se tenir debout, c'est-à-dire de pas avoir forcément la punition divine qui va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais voilà, on revient à un homme, ça s'empêche, c'est-à-dire être capable d'avoir une éthique ou une morale sans avoir la puissance comme ça tutélaire, un peu mystérieuse, qui appartient à un autre monde. Je trouve que ce qu'il y a dans ce monde est déjà bien suffisant et on peut s'accommoder du réel et en étant soi-même capable d'avoir ses propres codes, ses propres valeurs, sans se réclamer, vous voyez, de textes sacrés, de choses par-delà l'humanité. Enfin, il y a quelque chose dans Camus. C'est, finalement, Camus est un peu un chrétien qui s'ignore, si vous voulez. Il a des valeurs qui sont les valeurs de l'Évangile, on peut dire, mais il refuse cette espèce de promesse d'une vie après la vie, vous voyez, et tout doit se passer ici.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci d'être venu si joliment accompagné, Jacques Ferrandez, d'abord de cette très belle bande dessinée que je me garde jalousement, Le Premier Homme, d'après Camus, c'est aux éditions Gallimard, bande dessinée, et puis au Mercure de France, un récit illustré intitulé « Entre mes deux rives ».
Quand un truc me l'a dit, il était une rite, voilà là.
Quand il paraît que. Évidemment, tu peux. Fallait voir.
Bon voyage et bon vent.
Si, Yasmine.
Jacques Ferrandez en sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Doane Bouy. À la semaine.